Parcours de coach.
Aujourd'hui, dans Parcours de coach, nous allons parler de leadership. Pour évoquer ce thème, j'ai invité la coach Nathalie Delmas, qui a écrit le livre « Un leadership humain et performant, oui, c'est possible », sorti aux éditions Mardaga en 2021. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, découvrez une femme québécoise vivant en France qui parle de sa pratique avec entrain, authenticité et simplicité.
Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching.
Nathalie Delmas, bonjour.
Bonjour David.
Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard lorsque tu avais 7 ans?
Oui, très bien. Je voulais devenir psychiatre. Mon oncle, qui avait 8 ans de plus que moi, était très malade, était schizophrène. Je le voyais tous les week-ends dans un hôpital psychiatrique et moi, je m'étais mis dans la tête que j'allais le guérir. Donc, je voulais être psychiatre pendant plusieurs années, oui. Et à 14 ans, je suis allée voir un conseiller en orientation à l'école. Je lui ai dit que je voulais être psychiatre. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit exactement ce que je viens de te dire. Et il m'a dit, mais c'est pas une bonne raison. Mais si votre oncle veut pas être guéri, j'ai fait, pourquoi il voudrait pas être guéri? Enfin, je comprenais pas. Après, il m'a dit, mais vous saviez que vous allez devoir être médecin avant. Et moi, j'avais une horreur du sang. Et donc, pendant quelques mois, j'étais un peu perdue parce que j'étais tellement sûre que j'allais être psychiatre. Mais on ne m'avait jamais parlé de psychologue. À l'époque, le coaching n'existait pas.
Quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant?
J'étais très audacieuse. Et je fonçais. Peu importe, j'y allais, j'osais. Donc ça, c'est une des grandes qualités. Une autre, c'était que j'étais très imaginative. Donc j'avais envie de faire des choses que personne voulait faire. Mais par exemple, j'ai fait, quand j'étais jeune, des spectacles de rue avec mes voisins.
Alors, nous ne l'avons pas encore précisé, mais l'accent le laissera peut-être un peu penser aux auditeurs. T'es canadienne.
Oui, j'ai grandi à Victoriaville, qui est au centre du Québec. Et c'est la région de l'érable. Donc, on est les plus grands producteurs de sirop d'érable au monde.
Quelles étaient les professions de tes parents, Nathalie?
Mes parents étaient enseignants. Ma mère au primaire et mon père au secondaire, c'est-à-dire le collège et le lycée. Mon père enseignait l'anglais comme langue seconde et ma mère, au primaire, elle enseignait aux jeunes.
Et alors, quelles études as-tu fait?
J'ai d'abord fait des études de piano, que je suis allée au conservatoire à temps plein. J'ai fait des études de piano et à l'âge de 19 ans, j'ai réalisé que c'était vraiment pas pour moi. Et donc, j'ai fait du management parce que je me suis dit que ce serait toujours utile, mais je savais pas trop quoi faire. Puis après, j'ai fait un MBA en marketing international. Donc ça, c'est un petit peu le parcours de mes études.
Alors, peut-être revenir sur ton apprentissage du piano en conservatoire, parce que ça semble être une expérience fondatrice que tu évoques dans le livre dont nous parlerons au cours de cet épisode. Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Je pense qu'il faut d'abord que je commence avec mon amour du piano quand j'avais 3-4 ans. On n'avait pas de piano chez moi, mais mon oncle, que j'adorais, aimait beaucoup la musique et avait un piano chez mes grands-parents. Il habitait encore chez mes grands-parents puisqu'il n'était pas bien. Donc, tous les dimanches, chez mes grands-parents maternels, je jouais du piano et je composais sans même avoir appris le piano. Et tous les jours, je disais à maman, je veux un piano. Et un jour, mes parents ont convaincu mes grands-parents de leur laisser le piano. Et donc, à 9 ans, j'ai commencé les cours et ça a été une montée très rapide que je pratiquais, j'adorais. J'ai fait 10 ans en 5 ans de cours et donc après, mon prof m'a dit, mais il n'y a plus personne à Victoriaville qui peut t'enseigner, ça y est, il faut que tu passes ailleurs. Donc, on m'avait recommandé le conservatoire de musique de Trois-Rivières avec notamment la professeure Nadia Strychek qui avait une réputation de former de très grands pianistes, mais également une réputation d'être très exigeante. Donc, à l'âge de 16 ans, je voyageais 2 fois par semaine à Trois-Rivières de Victoriaville. C'était 55 minutes en voiture, donc je venais juste d'avoir mon permis de conduire. J'étais très contente. Je dirais, j'y suis arrivée au conservatoire avec un cœur complètement ouvert, dans l'insouciance, dans le plaisir de jouer. Et après 3 mois, c'est devenu la torture, c'est devenu la technique à tout prix. Donc la performance était devenue la technique et la perfection. J'ai vécu un premier trimestre de désillusion totale, qui a été très, très dur parce que mes parents sont pas du tout musiciens. Donc ils ne pouvaient pas trop m'accompagner. Donc je me suis retrouvée assez seule. Et dans le deuxième trimestre, mon prof m'a dit « je vais vous mettre au pain sec et à l'eau ». Donc j'ai fait des gammes et des arpèges très lents, et des études de Czerny très lents. C'est d'ailleurs un des grands apprentissages de ce temps-là, c'est que pour pouvoir mieux accélérer, il faut ralentir. Pas toujours évident, surtout quand on a besoin d'aller vite. Mais c'est vrai qu'avec cette formation, cette attention aux détails, de décortiquer chaque mouvement, ça m'a permis de jouer incroyablement vite, avec beaucoup plus de fluidité. Par contre, il n'y avait plus de cœur. Je jouais très bien, mais je ne ressentais plus rien. C'est-à-dire que ce que je ressentais à l'intérieur de moi, je n'arrivais plus à le jouer. Donc, après ce deuxième trimestre, j'étais capable de jouer n'importe quoi qu'on me donnait. Et après, j'ai fait 2 ans de plus. Donc, j'arrivais avec des moyennes de 85-87%, parce qu'au Canada, on ne compte pas sur 20, on compte sur 100. J'étais une bonne pianiste, mais pas une extraordinaire pianiste, donc je jouais bien. Mais bon, il n'y avait plus le cœur.
Et t'en souffrais? T'en étais consciente de ça à l'époque?
Oui, j'en souffrais. Et même, j'ai commencé à développer des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des tendinites terribles dans les petits doigts. Et un jour, les pouces se sont mis à enfler. J'étais incapable même de prendre une tasse tellement ça faisait mal. Et mon corps a commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et du coup, je l'ai écouté et je me suis dit, bon, on arrête. Mais là, c'était un peu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et donc, j'ai pris une année où j'ai pris des cours différents au cégep, qui est un peu comme les dernières années du lycée ici, peut-être. Et j'ai pris de la philosophie, plein de choses pour m'ouvrir l'esprit. Donc, j'ai fait du management. J'ai adoré tout ce qui était au côté comportement. Cross-cultural management, j'ai fait ça à McGill en anglais. Consumer behavior. Puis après, j'ai travaillé chez Air Canada parce que j'aimais l'avion. Après ça, j'ai fait un MBA en marketing international. Et là, je me suis retrouvée chez Procter & Gamble. Et j'ai commencé chez Procter & Gamble en ce qu'on appelle le market research ou la recherche de marché. C'est pour comprendre justement les habitudes, les pratiques, les comportements des consommateurs qui, encore une fois, revenaient avec comment comprendre le comportement des gens. Donc là, c'était le contexte, c'était les consommateurs. Et puis après, j'ai voulu être encore plus près des consommateurs. Donc, je suis allée dans les ventes. Si on regarde mon expérience qui était devenue l'efficacité et qui d'ailleurs aujourd'hui je trouve que les entreprises sont encore prises dans ce l'efficience à tout prix, toujours plus avec moins, ça épuise. Et moi je pense que c'est pas du tout durable et c'est pas écologique d'un point de vue humain, mais même pour l'entreprise ça empêche les grandes performances. Et plutôt mon expérience de spectacle de rue, de jeunes dans l'insouciance où on se connectait ensemble, où on avait dit mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire ça, allons-y. Tout le monde pouvait mettre à contribution ses talents. Pour moi, c'était 2 expériences de la performance qui étaient contradictoires. Alors, on n'était pas dans la perfection, hein, mais on était dans le partage.
Vous étiez dans le cœur.
Exactement.
Donc là, on évoquait plein de choses, mais oui. Du coup, en fait, au-delà des études, effectivement, ma question suivante, ça aurait été, quelle a été ta première partie de carrière?
Ma première, ça a été Air Canada. Mais j'étais du côté du fret et j'étais assez jeune. Hein. Je sortais de l'université en 88, donc j'avais 23 ans. J'étais une des 8 femmes dans tout le fret de tout Air Canada mondial. Ça a été une expérience très formatrice où j'ai eu un patron extraordinaire, Claude Morin, qui était très humain et qui m'a beaucoup encouragée d'ailleurs. Quand je lui ai dit « j'ai peut-être envie de faire un MBA », il m'a dit « mais oui, je te donne une année sabbatique ». Ça a été une première belle expérience avec un patron.
Donc il était soutenant.
Oui, et je pense que c'est clé dans beaucoup de coaching que je fais aujourd'hui. Si la connexion avec son patron, elle n'est pas bonne, c'est dur.
Donc après Air Canada, Procter & Gamble.
C'est ça. J'ai commencé à market research et j'étais dans les produits de beauté. J'ai fait des focus group pour comprendre les consommateurs sur différents produits. J'ai fait des études de marché, des tests de concept et d'utilisation sur des packaging, sur des formules, sur des concepts tout simplement. Ça m'a bien plu, mais je me sentais pas encore assez avec les gens. Donc, je suis allée dans les ventes. Et là, je me suis retrouvée avec ma voiture à faire les Shoppers Drug Mart. Alors, je crois que c'est la plus grande chaîne de pharmacentre au monde. En tout cas, au Canada, ça, c'est sûr. Et j'avais tous les Shoppers de Toronto et de la région. Je suis retrouvée à rencontrer la cosméticienne pour vendre des cosmétiques. Donc là, j'étais vraiment dans les cosmétiques. Je vendais CoverGirl, Max Factor. J'ai vécu un premier échec relationnel avec une cosméticienne qui m'a foutu à la porte. Dès ma rentrée, parce que je suis arrivée en grande pompe, Procter & Gamble, vous devez faire la promo, vous devez commander tant de mascara. La fille, elle me dit, mais vous connaissez rien de mon magasin, bye bye. Et moi, j'étais, mais oh, comment se fait-il? Et ça a été une découverte de se rendre compte que la chose la plus importante, en tout cas, c'est pas que j'ai les bons produits, que j'ai les bonnes promos et tout, mais c'était vraiment cette connexion humaine. Et j'avais un super patron, un autre bon patron, Dominique Scafidi, qui est aujourd'hui mon mentor, d'ailleurs qui est devenu coach. Et Dominique, qui est à Toronto, m'a dit « mais c'est bien, c'est pas grave, tu vas pouvoir reconnecter ». Et je me souviendrai toujours de la deuxième rencontre où je suis retournée dans ce magasin et je tremblais comme une feuille juste avant de rentrer. J'étais terrorisée. J'ai commencé par lui dire « vous avez raison, je vous connais pas, commençons par ça, parlez-moi de votre magasin, ce que vous voulez, c'est quoi votre rêve ici ?» On est devenus super connectés du coup. Et après, c'est sûr que là, le business a commencé à exploser dans son magasin par rapport à moi, ce que je vendais, mais aussi pas que. pour elle. Je regardais, mais oui, mais même d'un point de vue catégorie, bah, peut-être que ce serait plus intéressant là que tel autre compétiteur même ait plus de place. Enfin, c'était vraiment un changement assez radical de perspective. Et cette connexion humaine, ça a été le début hein, de ce en quoi je crois. Hein. D'ailleurs, mon bouquin est là-dessus. Et tout ce que je fais, les gens m'appellent Madame Connexion. Enfin, je suis tout à propos de ça. Donc.
Ça a été une clé.
Ah oui, ça a été une vraie grande clé, oui.
Un moment de bascule où tu as compris qu'en réalité, le point d'accès essentiel, c'était la connexion à l'autre, la relation au fond.
C'est ça, exactement.
Quelles sont les expériences de cette époque où tu étais dans le business qui furent fondatrices de ton envie de devenir coach par la suite, qui étaient un peu en germe de ta pratique du coaching?
Bah, avec Dominique, justement, qui m'a encouragée à faire une formation qui s'appelait Breakthrough Thinking and Leadership. C'était en 94. Dominique était mon patron dans les ventes. Il me disait, je pense que tu as tous les talents pour te déployer beaucoup plus que ce que tu ne le crois. Et puis moi, à l'époque, j'étais un peu perdue encore. Donc, j'ai fait cette formation. Et c'est justement dans cette découverte de la connexion et aussi parce que j'étais très ambitieuse. Je voulais pas être CEO, mais j'avais pas envie de juste rester à vendre les cosmétiques dans les magasins. Et j'ai commencé à voir où les inefficacités étaient dans mon travail. Et puis en plus, c'était vraiment barbant d'arriver dans un magasin. Il fallait que je compte tous les rouges à lèvres pour pouvoir placer une commande. Ce qui fait que quand j'allais dans un magasin qui avait 2,5 mètres de large d'un mur avec 2 mètres de haut, bref, ça me prenait 2 heures faire le calcul pour ensuite proposer avec les promotions combien on allait vendre. Parce qu'on n'avait pas les trucs informatiques à l'époque. Donc, j'avais fait la proposition qu'on fasse venir ce qu'on appelait des merchandisers. Donc, je leur donnais mon agenda. Ils venaient la veille, ils faisaient le calcul. Et moi, le lendemain, j'avais juste avec la promotion. Donc, je suis passée de 2 rendez-vous par jour à 6. Ce qui fait qu'il y en a que je pouvais voir plus souvent. Donc, ça leur empêchait d'avoir des ruptures de stock. Ça leur permettait aussi de ne pas avoir trop d'inventaire pour eux. Donc, ils savaient que je venais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines au lieu de venir tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, tout le monde était content et mon chiffre d'affaires a augmenté de près de 50% alors que ça s'était jamais vu. Donc, ils ont changé toute l'approche. Donc, c'était là aussi où comment est-ce que même moi, à ma petite échelle, je pouvais faire des propositions, que ça pouvait changer la manière de faire. Donc, ça a été une expérience que j'ai faite. Et aussi, mon père était prof d'anglais, il a organisé plein d'échanges internationaux entre ses classes pour que les jeunes s'ouvrent davantage. C'était assez innovant à l'époque. Et donc, moi, j'avais eu un très bon souvenir de ça. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa si on pouvait créer un réseau pour les enfants des salariés, pour qu'ils puissent échanger à travers le monde. Donc, j'en ai parlé à Dominique, qui me dit, mais parle-en au DRH du Canada. Je parle au DRH, il me dit, c'est une excellente idée. Donc, il faudrait que tu en parles au DRH groupe. Donc, je me suis retrouvée à avoir des conversations avec le DRH du groupe de Procter. Et ça m'était venu parce qu'un des salariés était parti en Arabie Saoudite. Donc, ils avaient fait tout le travail pour qu'il déménage. Et quand ils sont arrivés là, ils se sont rendus compte que son fils cadet avait un asthme épouvantable. Donc, ils ont dû revenir. Donc, ça a eu un gros impact pour sa carrière à lui, mais aussi la famille. Mais c'est un coût énorme. Donc, moi, je me disais, mais vous voyez, si l'enfant était allé voir avant, il aurait pu tester.
Puis j'imagine que ça correspondait aux valeurs de l'entreprise. Donc, ça a été bien accueilli.
Exactement.
Aussi pour ça.
Oui, oui.
Déjà un peu coach, en fait.
Déjà, ouais, sans le savoir.
Alors justement, quelle formation as-tu suivi pour assurer ton virage progressif vers le coaching?
Donc déjà, Dominique m'avait encouragé de faire cette formation en 94 sur Breakthrough Thinking et Leadership. Et ça a été un virage à 180 pour moi. C'était vraiment plutôt développement personnel de se poser la question qui on est vraiment et que peut-être qu'on n'est pas qui on pense qu'on est. Et que quand on ose dire qui on est et qu'on comprend que la création de ce qui se passe dépend de ce qu'on en dit, dans une expérience humaine assez incroyable, mais quand on comprend ça et qu'on peut être le maître de son destin et qu'on peut vraiment oser et qu'on n'est pas limité par son expérience passée ou par même son éducation, et ben là, sky's the limit, quoi. On peut vraiment imaginer le possible, on peut le rendre possible. Pour moi, ça a été une vraie liberté de comprendre la force et la puissance de comprendre qui je suis, pas d'une explication, mais plutôt d'une création de qui je suis. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « découvre qui tu es ». Moi, j'ai envie de dire « crée qui tu es ». Ça a été un virage incroyable. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait plein de formations en Breakthrough Leadership. Ça, c'était en 94, 95, 96. Donc, j'ai continué. Et en 98, j'ai joué un cabinet international qui faisait ce genre d'approche Breakthrough Performance, Breakthrough Leadership, surtout dans les grandes entreprises. Et j'ai ouvert leur bureau canadien, qui s'appelle Gap International. Et là, ben, ils m'ont formé à leur approche. J'ai été avec eux pendant plus de 10 ans. J'ai travaillé avec de très grands comptes, Johnson & Johnson, Diageo, American Express, plein de secteurs très, très différents. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et après 10 ans, j'ai décidé de venir en France. Et quand je suis venue en France, moi, cette approche de mon ancien cabinet, elle était très performante, mais je la trouvais trop dans le déterminisme. Si on veut, on peut, on y va, on fonce. Encore dans le plus avec moins, je trouvais que c'était dans le forcing. Il me disait, il y a une autre manière, c'est pas possible. Et donc, j'ai rencontré le cabinet Newfield à Amsterdam. J'ai fait une formation avec eux, le coach ontologique, où il y a le langage, le corps, les émotions. Cette école de coaching m'a vraiment donné les bases de coaching comme telle, parce que avec mon ancien cabinet, c'était un mix conseil, formation, coaching. Alors que là, c'était plus du coaching pur. Et je me suis fait superviser ici en France par différents superviseurs en systémique, en gestalt. Depuis pratiquement que je suis arrivée, je fais des supervisions collectives pour continuer d'approfondir mon approche, m'ouvrir à d'autres approches.
Donc ton mari, il est français et à un moment donné, vous avez décidé de vous installer en France. Qu'est-ce qui s'est joué à cet endroit-là ?
En 2007, mon cabinet voulait que je déménage aux États-Unis. Bon, bref, j'étais enceinte, ça a été assez compliqué. Finalement, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, ils voulaient fermer les bureaux canadiens. Et mon mari et moi, on voulait pas aller aux États-Unis. Du coup, mon cabinet m'a dit, ben, est-ce que vous seriez OK pour ouvrir un bureau en Europe ? J'ai accouché de mon bébé, mon deuxième, en novembre 2007. Mon mari est parti en février-mars 2008 pour trouver du travail ici. Donc, il est venu en France. On a vendu la maison et tout. Mon mari avait trouvé du travail et mon cabinet a changé d'idée à la dernière minute. Donc, on a décidé de se quitter en bon terme et on est venu vivre ici. Donc, on s'est installé à Boulogne. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je connaissais 4 personnes et j'ai commencé à connecter avec les anciens de Procter par LinkedIn. J'ai commencé à dire, ben voilà, j'arrive, je ne sais pas ce que je peux faire.
T'as réseauté.
J'ai réseauté. J'ai été interviewée d'ailleurs pour joindre un cabinet. Sur papier, j'étais parfaite, c'est-à-dire qu'ils voulaient quelqu'un d'international, qui parlait plusieurs langues, qui pouvait faire du développement d'affaires, qui pouvait coacher.
T'as fait un entretien, hein, je précise, pour les auditeurs.
J'ai fait un entretien, oui. Qu'est-ce que j'ai dit ?
J'ai été interviewée.
Ah oui, j'ai fait un entretien, excuse-moi, un entretien d'embauche. Et puis finalement, on m'a dit que j'étais pas assez franco-française et que je connaissais pas assez de personnes pour développer le business. Alors là, ça m'a mis en colère. J'ai dit, ben, je vais vous prouver, moi, que je peux. Donc, je me suis mis à mon compte et j'ai tout de suite commencé à trouver des clients. Et la première année, j'ai eu un chiffre d'affaires qui était vraiment très bon. L'Oréal est devenu mon premier client et il est encore un grand client aujourd'hui.
Ok, Nathalie, je te propose en fait un premier intermède et nous allons écouter maintenant un extrait musical de ce que tu as choisi pour cet intermède. Alors, il s'agit de Mission Impossible. C'est en 1965 que le compositeur argentin Lalo Schifrin compose le générique de la série télévisée d'espionnage. Et alors, pourquoi avoir choisi ce thème musical, Nathalie ?
Premièrement, ça a été une de mes séries préférées quand j'étais petite. Mais c'est surtout que le générique commence avec cette mèche qui est allumée et qui, pour moi, représente l'idée. Donc, il y a une première idée qui fait son chemin. Et ensuite, il y a ce fameux enregistrement que les gens écoutent et qui va se détruire après. Mais c'est cette mission qui semble impossible, que n'importe qui refuserait et qu'eux acceptent toujours et qui savent recruter, trouver les bonnes personnes avec tout leur talent pour réaliser cette mission à la fin. Donc pour moi, le truc de Mission Impossible, c'est que paraît impossible, mais elle est toujours avec l'engagement des gens, avec leur connexion, le déploiement de leur talent, ils y arrivent. Et donc pour moi, ça fait partie de mon modèle, je l'appelle Mission Impossible, qui est la série des résultats qu'on veut vraiment. Voilà pourquoi j'ai choisi cette musique, qui représente pas mal l'approche et le contexte dans lequel mes clients viennent me chercher.
C'est une musique qui est à peu près intemporelle et elle a encore cette puissance d'évocation. Je pense que c'est une musique à peu près en 3 secondes, on identifie ce que c'est.
Ça, c'est le grand talent des grands compositeurs. Hein. Peu de notes peut créer quelque chose tout de suite dans l'imaginaire des gens et ça les reconnecte immédiatement à toute l'expérience du film.
Et par rapport à tes missions, est-ce que tu as parfois le sentiment d'avoir justement cette mission impossible à relever ?
les clients qui viennent me chercher, moi et mes équipes, c'est vraiment des clients qui, normalement, leurs équipes vont assez bien. Et là, eux, ils ont envie de casser le business as usual. Ils ont envie de créer autre chose. Donc ça, c'est vraiment les gens qui viennent me chercher. Ceux qui veulent le business as usual ou travailler les dysfonctionnements d'une équipe, c'est pas moi qui viens de chercher. D'ailleurs, c'est comment je les libère pour qu'ils osent être, faire et réaliser l'exceptionnel. Donc moi, je suis vraiment dans ce côté mission qui paraît impossible. Donc c'est vraiment mon cœur de métier, hein, c'est vraiment ça. Donc comment oser créer une nouvelle réalité qui est loin d'être prévisible ?
À présent, je te propose de poursuivre l'interview, de parler de ton livre qui s'appelle « Un leadership humain et performant, oui, c'est possible », sorti chez Mardaga en 2021. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre, Nathalie ?
J'ai jamais voulu écrire un livre, mais il y a beaucoup de gens qui me le demandaient. D'ailleurs, c'était tout un défi pour moi que d'écrire, parce que justement, je ne considère pas que c'est une de mes forces. Mon mari est extraordinaire dans l'écriture, donc il m'a beaucoup accompagnée. Le directeur général de Mardaga m'avait vu dans une conférence à l'Association du Progrès du Management à Annecy il y a quelques années et il avait été assez interpellé par mon approche qui justement parlait de la connexion. Et donc il m'a approché en me disant « Est-ce que vous accepteriez d'être une des premières auteurs dans notre nouvelle série Management et Leadership ?» Et ma première réaction c'était « Ah non !» parce que j'étais terrorisée hein, par la peur. Et c'est lors d'un petit déjeuner chez moi, mon fils cadet, Sébastien, je lui dis « Écoute, on m'a demandé d'écrire un livre, mais je suis pas sûre que je vais le faire, j'ai assez peur, je pense que je sais pas trop. » Et je voulais me rapprocher de lui parce qu'il avait peur de différentes choses à l'école. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Mais maman, dans ton cœur, est-ce que t'en as envie ?» Et j'oublierai jamais ce moment. Je l'ai regardé et j'ai fait « Oui ». Alors il m'a dit « Mais c'est bon, c'est réglé, tu vas le faire ?» Donc voilà pourquoi j'ai accepté d'écrire ce livre. Et au début, j'étais un peu perdue. Est-ce que je parle de toute mon approche de coaching organisationnel ? Parce que c'est surtout dans ce cadre que je travaille. J'accompagne les dirigeants, les équipes, les organisations entières pour vraiment créer ce nouveau futur. Mais finalement, j'ai décidé de me concentrer plus sur l'individu en tant que tel, mais avec plein d'exemples en entreprise.
Alors justement, parlons un petit peu du livre et peut-être si tu veux bien, on va commencer par quelques définitions pour aider les auditeurs à suivre. Comment définirais-tu simplement le leadership ?
Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui ose déjà imaginer, qui ne va pas se laisser fermer par les barrières de ce qui est possible, pas possible. Donc, qui ose dire ce qu'il veut vraiment et qui s'organise pour que ça devienne réel en incarnant ce futur. Pour moi, c'est la parfaite cohérence entre ce que le leader dit, ce qu'il fait et ce qu'il est. Et donc, pour moi, c'est ça le leadership.
Donc, une question de congruence.
Totalement. Si vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment et que vous n'osez pas le dire, parce qu'il y en a qui sont alignés avec ce qu'ils veulent, mais du coup, ils n'osent pas aller dire à l'extérieur. Donc, il y a un désalignement déjà là. Le leadership, pour moi, ce n'est pas nécessairement un dirigeant. Il y a beaucoup de dirigeants qui ne sont pas des leaders.
La performance, comment tu définirais ce concept ?
Pendant des années, c'était performance égalée efficacité. Et beaucoup, beaucoup d'entreprises sont prises dans ce cercle infernal aujourd'hui, qui est en train d'épuiser toutes les ressources. Pour moi, la performance, c'est l'expérience et la réalisation, donc c'est les deux, d'une co-construction qui aura émergé dans la connexion authentique des individus avec eux-mêmes, entre eux et avec le monde. Chaque mot est pesé, cette co-construction, elle est essentielle, déjà dans la connexion authentique avec les individus avec eux-mêmes, avec qui on est, pourquoi on est là. Et après, ça nous permet de nous connecter avec les autres, avec leur raison d'être et avec le monde. Et quand tout ça s'est connecté, aligné, là, la performance se décuple, mais d'une manière incroyable, parce que ça crée de l'énergie au lieu de l'enlever. Alors que quand on est dans l'autre modèle, qui est vraiment le plus à tout prix, ça, c'est un modèle qui épuise, d'après moi, les énergies. Pour moi, c'est ça, la performance.
Nathalie, je peux pas m'empêcher, quand tu parles de ton approche de la performance, de te voir enfant avec les copains du quartier à co-construire une pièce de théâtre.
Tout à fait.
Il y a cette expérience première qui semble déterminante au fond.
Tout à fait. Même au conservatoire. Alors si on revient au conservatoire, on a parlé du piano, mais j'ai fait partie de chorale. J'ai pris des cours de chant. Toutes mes expériences musicales dans les camps musicaux d'été où on était en groupe, pour moi c'était incroyable. Ce que plusieurs voix peuvent faire. C'est ça qui est exceptionnel. D'ailleurs, la voix, pour moi, c'est l'instrument le plus exceptionnel qui existe. Dans le fond, je ne voulais pas vraiment être pianiste. Hein. J'ai fait du piano, mais je voulais être chanteuse d'opéra. Je n'ai pas pu, mais et pour moi, c'est ça. C'est quand les voix, les gens, ensemble, osent dire, et ensemble, ça crée une énergie de dingue.
sorte d'égrégore, quoi, quelque chose qui émerge du collectif et qui dépasse la somme des individus.
Tout à fait, exactement.
Alors, peux-tu nous présenter le concept du leadership humain et performant ?
Il y a une étude qui a été faite de M. James Enger avec 60 000 salariés où il s'intéressait à comment étaient perçus les dirigeants dans leur capacité à être d'excellents meneurs d'hommes. Et il s'intéressait surtout à regarder les compétences. Il s'est intéressé à les qualités de gens qui étaient orientés résultats ou les qualités de gens qui étaient plutôt orientés compétences sociales, donc l'empathie, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens qui démontraient qu'ils avaient des qualités orientées résultats, ils avaient 14% de probabilité d'être perçus comme un excellent meneur d'hommes. Pour ce qui est des gens avec de l'empathie, ils avaient 12% de probabilité d'être perçus comme excellent meneur d'hommes. Mais quand les gens avaient les deux, c'est-à-dire qu'ils étaient perçus comme orientés résultats et avec des compétences sociales, ce chiffre montait à 72%. Donc pour moi, il y a ce côté, il faut y aller, hein, il faut oser créer quelque chose de nouveau parce que quand on reste dans le comme d'hab, le business as usual, on n'a pas besoin de trop réfléchir, on est dans l'automatisme, etc. Le fait d'oser imaginer créer quelque chose de nouveau et d'embarquer les gens, ça donne énormément d'énergie et ça crée justement des résultats exceptionnels. Donc la performance vient des actions qu'on prend et les actions qu'on prend viennent de notre mode de pensée, de notre manière dont on voit le monde, non pas nécessairement de la manière dont le monde est. Donc, derrière l'action, il y a un humain. Et les leaders, ils veulent que leurs salariés, leurs collaborateurs prennent action par rapport au futur qu'ils veulent vraiment et non pas des actions comme d'habitude. En tout cas, si quelqu'un veut créer quelque chose de nouveau, de différent, il va falloir oser prendre d'autres actions. Et on le sait qu'on est des êtres d'habitude, etc. Donc, le côté humain et performant, c'est de comprendre qu'on met l'humain au cœur de la stratégie de l'entreprise. Si pour les entreprises qui font ça, ils vont avoir l'avantage compétitif que les autres n'ont pas, parce que la technologie, ça va vite, hein, on peut tout avoir. On peut avoir les meilleurs processus, les meilleures technologies, etc. Si on n'a pas le côté humain et d'avoir mis le côté humain au cœur de la stratégie, on ne va pas réaliser des performances. En tout cas, elles ne seront pas durables et ce n'est pas ce qui va faire que les gens vont rester dans l'entreprise. Donc, c'est ce côté humain au cœur de la stratégie de l'entreprise et de la vision de l'entreprise qui va permettre ce genre de performance. Donc, pour moi, les deux ne sont pas antinomiques. Ils sont d'ailleurs essentiels.
Alors, dans ton livre, tu parles des lois de la performance. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Moi, j'ai été inspirée par un livre qui s'appelle « Les trois lois de la performance » qui a été écrit par Dave Logan et Steve Zaffron. Donc, la première loi, la performance, les résultats qu'on a viennent des actions qu'on prend. Et ces actions viennent de la manière dont on perçoit le monde et non pas la manière dont le monde est. La plupart des gens ne réalisent pas que c'est leur perception. Pour eux, le monde est comme ça. Donc déjà, cette première ouverture de dire « Non, mais ça, c'est ta perception et l'autre a une autre perception », puisque la perception nous donne l'action, la deuxième loi, c'est comment on peut avoir accès à cette perception. Donc, on dit que la perception s'exprime en langage. Dans le livre, c'est plus le langage des mots, mais justement, le langage dépasse le langage des mots. Donc, il y a le langage corporel, le langage des émotions, même le langage dans lequel on se situe dans un environnement. Si on écoute même ou qu'on regarde et qu'on observe quelqu'un, on voit tout de suite si oui ou non ils vont y aller. J'étais avec un client il n'y a pas longtemps, puis ils ont un gros plan d'innovation à réaliser cette année avec de gros enjeux. Et en les écoutant, je leur ai dit « Non, mais vous n'allez pas le faire, les gars. Comment ça, on ne va pas le faire ?» Non, non, non. J'ai dit « Non, mais écoutez-vous. » Il n'y avait aucun engagement, aucun langage de clarté. La troisième loi, c'est « Seul un nouveau langage va créer de nouvelles perceptions. » Ça peut être une nouvelle posture corporelle qui change quelque chose. Ça peut être de nouveaux mots va changer les choses. J'ai un client dans le packaging là, qui a compris que les mots « laboratoire » ont grande notoriété dans l'entreprise. Donc, il a voulu élever le statut de ses équipes en packaging. Ils appelaient ça les différents départements. Et il a dit « Non, non, on va s'appeler « laboratoire de science packaging »,« laboratoire de procédés packaging ». Eh bien, ça a changé la manière dont eux-mêmes se percevaient et la manière dont les autres les percevaient. Donc, ce changement de langage changeait la perception même des collaborateurs. Là, après à peine 2 ans, l'entreprise commence à les percevoir différemment. Donc ça, c'était un exemple de nouveau langage en entreprise. Mais souvent, avec des clients, on écoute les mots qu'ils utilisent, leur posture, etc. Et un petit changement peut faire une grande différence.
Alors, un autre élément, modèle de la performance que tu évoques dans ce livre.
Simon Sinek disait « It starts with why ». Ça commence avec le pourquoi. Ben moi, je suis plus ou moins d'accord. C'est-à-dire que je trouve que « It starts with who ». Ça commence avec qui. Qui vous êtes. Et si le dirigeant d'une équipe, le dirigeant d'une organisation n'incarne pas vraiment le futur qu'il veut, le reste, ça ne se fera pas. Même si on a conscience des enjeux, du pourquoi, justement, la raison d'être, tout le monde parle de ça. Mais si il n'y a pas qui on est et qu'on ose dire qui on est et qui on veut être, donc pas nécessairement qui on est de notre ego, notre personnalité, etc. Pour moi, ça commence par ça. Donc le centre de l'approche qui est vraiment ce que j'appelle le déclare-être dans mon livre, c'est qui on ose déclarer être. Une déclaration, c'est oser dire sans preuve, hein. Donc tout le bouquin d'ailleurs amène sur comment on peut se débarrasser de certaines croyances qui nous limitent à qui on pense qu'on est ou à qui on pense qu'on doit être, à qui on veut vraiment être et d'incarner ce futur pour que ensuite on se façonne pour le devenir.
Mais ça sous-entend aussi que le leader soit en capacité de communiquer clairement le futur pour l'entreprise. S'il a des difficultés à communiquer clairement, ça va être beaucoup plus compliqué, voire impossible, d'embarquer les équipes avec lui.
Évidemment.
Donc elle a nécessité à être claire dans sa communication, d'être impactant, d'être authentique.
Oui, alors justement, s'il n'est pas connecté et s'il n'incarne pas le futur, il n'arrivera pas à communiquer, même avec les plus grands communicants. Ensuite, justement, cette connexion doit se passer avec les autres, avec l'équipe. Qui on est nous en tant qu'équipe? Qui on est nous en tant qu'organisation? Et tout ça, ça doit être connecté avec les enjeux du monde. Donc, il y a 4 piliers à cette approche. Le premier, c'est la mission impossible. D'ailleurs, que j'écris avec I'M possible pour dire que chacun d'entre nous peut transformer l'impossible en possible. Une transformation organisationnelle commence par l'individu. Ça, c'est la série des objectifs qui apparaissent impossibles, un peu comme la série télévisée, que les gens disent « Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous, là? Qu'est-ce qu'on veut créer ici ?» Ensuite, il y a les enjeux. Très souvent, les gens ne sont pas très conscients des enjeux des uns et des autres. C'est très important que les gens aient conscience des enjeux pour eux, pour les autres, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les conversations qu'on a tous les jours, c'est des conversations sans enjeux. Et donc, on ne va pas changer la donne si on n'est pas conscient des enjeux. Donc, le travail que je fais souvent, c'est d'élever les enjeux. Donc, il y a le qui, il y a le quoi, il y a le pourquoi, et il y a 2 comment. Les 2 comment, c'est le commitment. Donc, comment on garde l'engagement dans la durée? Parce que je leur demande, les équipes avec lesquelles je travaille, d'oser s'engager. Ils sont obligés de penser différemment et même à prendre des actions qu'ils n'auraient jamais prises avant. Et l'autre, c'est la connexion, qui est vraiment ce côté connexion humaine. Comment je reste connectée à moi-même? Comment je me connecte à l'autre, surtout quand je le trouve pas sympa? Ça, c'est pas évident. Il y a tout un monde de l'art de la connexion. C'est très simple hein, comme concept. D'ailleurs, tout le bouquin, il est super simple à comprendre. Après ça, mettre en œuvre, c'est sûr que ça remet beaucoup en question.
Je suis pas certain que ton approche soit simple. Je pense que ton approche, elle est pragmatique. Et pour un livre de coach, c'est pas si fréquent. Il y a beaucoup de livres que je parcours avec le sentiment d'être beaucoup dans la tête. Et là, j'avais quand même à la lecture de ton livre plus le sentiment que c'était étayé par de l'expérientiel, maintes fois éprouvé. Enfin, il y a quelque chose de très terrain, quoi.
Exactement.
Alors Nathalie, est-ce que tu pourrais nous partager des exemples d'accompagnement de leaders pour les conduire à être à la fois performants et humains avec ton approche?
Mais je vais parler d'une cliente que j'ai rencontrée il y a quelques années, responsable service client d'une très grande entreprise dans la communication, qui voulait vraiment embarquer ses équipes parce qu'ils avaient des gros enjeux. Il fallait qu'ils réduisent leurs coûts dramatiquement et il y avait un contexte de plan social. Enfin, c'était assez compliqué. Et elle voulait vraiment transformer, amener toute l'organisation à s'engager et à entrer dans cette période qui allait être assez compliquée. Et elle avait cette vision de la pyramide inversée, c'est-à-dire les collaborateurs d'abord. Si les collaborateurs sont engagés, sont heureux, sont bien, ben ça va avoir un impact jusqu'au client. Donc j'ai rencontré cette grande dame d'ailleurs, dans la 40aine, avec un collègue gestaltiste. Et ensemble, on a co-créé toute une façon de travailler avec cette cliente. Et au début, ce qui était intéressant, c'est que je sentais que ça prenait pas. Et donc l'été passe. Et finalement, après les vacances, elle dit « Bon, c'est bon, j'ai décidé de rester. » Ah, elle n'était pas sûre qu'elle voulait rester dans l'entreprise. Donc du coup, il n'y a rien qui prenait vraiment. Même son déclare-être, il n'était pas encore complètement ancré. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a dit « Bon, c'est bon, mon déclare-être, ça y est, c'est clair, je suis un leader libérateur. » Et donc, j'ai dit « Très bien, ça a commencé par te libérer toi de tout ça. » Et ça, c'est très important de pouvoir voir est-ce qu'on a vraiment les conditions de réussite dans l'entreprise, est-ce qu'on a envie de faire ça dans l'entreprise, dans le contexte dans lequel on est. Et donc, à partir de ce moment-là, mais tout est allé tellement vite, c'était incroyable, parce que le travail qu'on avait commencé avec l'équipe, qui ne voulait pas, que ça n'accouchait pas, quoi. On avait l'impression qu'on était arrêté. Eh bien, ça s'est, en une demi-journée, tout ouvert, c'est devenu clair, c'était quoi la mission est possible, c'était quoi leurs enjeux, à qui ils devaient connecter, c'était quoi leurs engagements, enfin, un truc de dingue, quoi, c'était arrivé super vite. Et après, il fallait déployer avec les autres entités de l'entreprise, on a décidé comment on allait être assez économe. Moi, j'aime bien travailler dans le côté économe de l'entreprise, au lieu de faire des machines à gaz que je supporte pas. Donc, on a pris les ambassadeurs, les 50 top leaders de l'entreprise, on a commencé à les former eux, on a formé d'autres personnes à l'approche. Et en l'espace de 2 ans, on a accompli des trucs de dingue. La perception, c'était que si on réduit les coûts, ben, la qualité va descendre, quoi, c'est sûr. Et on parle à un service client. Donc, pour eux, ce qui est le plus important, leur grand enjeu, c'est la qualité du service. Alors, la nouvelle pensée, ça a été non, c'est en donnant un service supérieur qu'on va réduire les coûts. Et c'était un changement dramatique dans leur mode de pensée et ils ont commencé à comprendre que c'était vrai. Donc au bout des 2 ans d'accompagnement, où on accompagnait individuellement chacun des membres du comité de direction, on a touché les top 350 de la boîte. Ben, après 2 ans, ils ont eu une augmentation de l'engagement des salariés de 20% alors qu'on était en plan social et tout. Ils ont réduit les coûts, je crois que c'était 20-25% de plus que ce qui était prévu. Et la qualité de service, ils ont eu des résultats phénoménaux. Donc voilà un peu un exemple d'accompagnement qui a commencé avec la dirigeante et puis qui ensuite s'est déployé avec l'équipe et l'organisation pour avoir un impact business et humain. Parce que c'était ça aussi qui est intéressant. Hein.
Dans un accompagnement d'organisation de ce type-là, encore faut-il qu'il y ait un engagement sincère, authentique de celle ou celui qui est à la tête.
Ça, c'est clair. C'est pour ça que je refuse de faire des appels d'offres où le dirigeant n'est pas impliqué. Moi, j'aime bien commencer une mission avec seulement un engagement sur un jour avec le dirigeant pour qu'on se connecte et qu'on voit si on a envie de bosser ensemble, quoi. Et que je sente si oui ou non le dirigeant est prêt. Parce que ça m'est arrivé de dire à un dirigeant après une journée, non, vous n'êtes pas prêt. On va pas aller plus loin pour l'instant. Je vais continuer avec vous jusqu'au jour où vous serez prêt si vous voulez. Et c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises parce que c'était trop important.
Créer l'alliance.
Ah oui, mais ça, c'est clé. Et ce qui est très intéressant, c'est que créer l'alliance, c'est tout un art parce que des fois, on pense qu'on l'a créé et on l'a pas créé. Et c'est là où on se retrouve dans des situations pas trop faciles.
Quelle est l'hygiène de vie qu'un leader doit respecter pour rester dans cette approche humaine et performante? Qu'est-ce qu'il doit faire au quotidien, régulièrement, pour entretenir finalement un positionnement plus juste?
Pour moi, c'est déjà comment le dirigeant doit rester connecté et conscient à lui-même, aux autres et au monde. Comment être conscient, pratiquer cette pleine conscience au quotidien, moment après moment. Ça ne veut pas dire qu'on est en méditation tout le temps, mais c'est un peu comme avoir cette posture d'observateur de soi en même temps qu'on agit, autométa, où on ose dire « Oh, mon énergie, elle n'est pas là », parce que dès qu'il n'y a pas d'énergie, on est déconnecté. Pour moi, c'est automatique. Donc, c'est de comprendre c'est quoi ces red flags et avec un engagement de rester connecté, parce que c'est facile de rester déconnecté. Ensuite, il y a aussi des rituels. Est-ce quel rituel vous pouvez avoir au quotidien?
Tu peux donner un exemple peut-être?
Ben moi, je peux partager le mien. Hein. Donc déjà, ça commence avec le réveil. Moi, j'ai un réveil matin qui me fait une musique très douce. Ensuite, tant que moi, je ne suis pas complètement centrée, connectée, paisible, j'ouvre pas mon téléphone. Donc déjà, souvent, je fais de la méditation et je fais du sport. Puis après, c'est aussi comment on se nourrit et de quoi on se nourrit. Et ensuite, comment je suis connectée avec les autres. Donc ça, c'est très important. Donc moi, je fais partie de supervision de coach collectif. J'en ai 2. Donc tous les mois, ça me permet de me recentrer dans ma posture, de pouvoir oser des choses différentes. Donc pour les dirigeants avec lesquels je travaille, il y en a qui n'envisagent pas ne pas avoir de coach. Pour moi, en tant que Canadienne, un dirigeant aujourd'hui, il se doit d'avoir un coach ou en tout cas quelqu'un qui va pouvoir le challenger d'une manière neutre. Parce qu'en entreprise, il n'y a pas de gens neutres. Votre coach, c'est vraiment, j'ai toujours, c'est le best partner qui est là vraiment pour vous, complètement pour vous, et qui n'a pas d'autre agenda. Il va être capable de vous dire là où ça déconne un peu.
Il y a quelque chose qui m'a assez amusé dans ton livre, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont déposés. Je ressens très très bien le fait que tu aies eu un passé de marketeur, etc. Il y a toute cette dimension-là dans le livre. Hein.
Dans l'approche même, les mots soit ouvrent de nouvelles perspectives, soit ferment. D'ailleurs, quand je suis arrivée en France, je ne me suis pas vendue comme coach parce que je crois que j'aurais eu 0 client. Parce que j'étais pas des grandes écoles françaises, etc. Non, moi, je me suis vendue comme un breakthrough performing, breakthrough leadership. Ça m'a ouvert parce que les gens disaient « Mais c'est quoi le breakthrough ?» Donc, ça me permettait de pouvoir avoir mon champ pour exprimer ce que je voulais dire.
Oui, ça a intrigué.
Voilà, ça a intrigué.
Et ça te différencie de la concurrence aussi.
Exactement. Donc, ce côté différenciant est très important. C'est pour ça aussi que je crois que les entreprises qui captent beaucoup sur la communication, mais pas nécessairement sur l'incarnation de la communication, c'est là où ça pêche pour moi. Aujourd'hui, je vois beaucoup de dirigeants sur LinkedIn. Puis on sait que ce n'est pas eux qui écrivent. Hein. Et oui, c'est bien beau, ça fait plein de pubs. Mais si ce n'est pas incarné derrière, c'est creux.
Mais tu n'as pas eu de l'appréhension de donner finalement ta méthode à tous les coachs qui peuvent être tes pairs, mais qui potentiellement peuvent être aussi des concurrents éventuellement sur certains segments de clientèle qui peuvent être aussi les tiens?
Quand j'arrive en France, j'avais très peur de ça. J'étais plutôt protectrice. Et j'ai compris qu'il y a tellement de boulot de toute façon que le plus de gens possible peuvent avoir accès à une autre manière de faire, le mieux c'est. Et même si les coachs lisent le livre, s'ils n'arrivent pas à l'incarner, ils ne pourront pas la délivrer parce que c'est dans cette magie que ça se passe. Donc comme moi, ce bouquin, il fait partie de moi, je l'incarne, etc. Et j'ai formé des coachs avec lesquels je travaille depuis plusieurs années et qui maintenant l'incarnent. Ça fait toute la différence. Donc c'est comme les grands chefs cuisiniers hein, qui vous donnent leurs recettes. C'est pas parce que la recette est publiée que vous allez produire un grand repas. Hein.
Non, clairement, la puce talent, elle n'est pas vendue avec.
Non.
Tu as répondu partiellement à la question qui venait, hein, parce qu'en sous-jacent, je me suis dit, mais est-ce qu'elle n'a pas envie d'accompagner, de mentorer certains coachs qui pourraient avoir l'honnêteté de dire, ça m'intéresse, j'aimerais faire comme toi, est-ce que tu peux m'aider, quoi? Donc, tu le fais avec certains collègues qui sont aussi des partenaires, j'imagine?
Oui, exactement. Cette expérience et la réalisation de la co-création. Si les gens viennent vers moi et qu'il y a quelque chose qui se crée et que ça fait envie et que ça bouge, ben, why not? J'ai envie de donner, transmettre, que de protéger. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait un peu sourire les trucs déposés.
C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu surprenant, presque paradoxal, d'une part de déposer certains concepts et en même temps de détailler de manière assez claire et transparente toute ton approche. Bon, bah, en tout cas, si tu es ouverte, tu auras peut-être quelques auditeurs qui vont t'écrire.
Peut-être. Ce sera intéressant de toute façon. Hein. Donc, ouais, je suis vraiment dans cette ouverture de ce qui arrive, j'accepte. Je ne suis plus dans la résistance.
Alors, je t'invite maintenant à tirer des petits papiers sur lesquels sont inscrits des numéros qui correspondent à des questions que tu n'as pas du tout eues à l'avance.
Numéro 3.
Si tu avais une baguette magique, que referais-tu différemment dans ton parcours et qui relève de ta responsabilité?
Ça m'arrive d'avoir ce fantasme. En même temps, je trouve que ma vie, telle qu'elle se déploie est parfaite. Mais s'il y en avait un, ça aurait été de revenir quand j'avais 14 ans et que je voulais être psychiatre et d'avoir peut-être creusé davantage.
De ne pas te laisser décourager par juste l'avis de ce conseiller d'orientation, c'est ça?
Voilà, exactement. Et je vais commencer une formation en neurosciences. J'aurais voulu commencer plus tôt. Bon là, je le fais maintenant, mais jamais trop tard. Hein.
Tu veux bien tirer un autre papier?
24.
Le plaisir dans le coaching, c'est quoi pour toi?
Moi, le plaisir ultime, là, c'est quand je suis avec un dirigeant où il y a une vraie connexion, un vrai engagement, un désir d'aller plus loin. J'ai eu une rencontre vendredi dernier avec un client qui est assez nouveau, avec de gros enjeux. Et il commençait en me disant « Mais c'est une boîte de fous, comment j'y arrive pas ?» C'était hallucinant parce qu'il était prêt à dire « Au bout de la rencontre, on s'est rencontré pendant 3 heures, je veux être clair si je reste ou pas. » Et cette conversation simple lui a permis de voir clair. C'est magique. C'est-à-dire que je suis comme dans le flow avec le client et c'est un peu comme si c'est pas moi qui parle. Je me sens connectée à un autre niveau et ça me connecte aussi au plaisir. Quand je faisais de la musique et que j'étais dans cette insouciance. Donc quand moi je suis dans cette insouciance, je suis dans le bon moment, je suis là. C'est incarné et aérien en même temps.
C'est bien, tu connais maintenant le principe, tu retires un petit papier.
10.
As-tu déjà considéré que tu avais raté une de tes séances de coaching? Et si oui, quelle en a été la raison?
J'en ai une, justement. La raison, c'est que je croyais que j'étais connectée avec cette dirigeante, alors que j'étais plutôt fascinée. J'ai rencontré cette personne, très belle vision, incarne quelque chose d'incroyable, qui a un impact sociétal incroyable. Et cette personne était d'une intelligence, mais exceptionnelle. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Mais j'étais fascinée. Donc, quand je suis fascinée, je suis plus dans la connexion, dans la vraie relation. Quand on est fasciné, on devient un peu comme un enfant qui regarde l'autre, qui le met sur un piédestal. Et donc, ma capacité à être un coach vraiment pertinent n'était plus là. Et donc, séance de coaching où je lui ai donné un feedback alors qu'elle n'était pas prête à recevoir ce feedback. Alors que moi, j'étais persuadée qu'on avait ce genre de connexion. Et ça a créé quelque chose de différent pour elle. Donc, la déconnexion s'est créée entre nous. Ce qui fait que oui, ça a été pour moi une expérience où j'étais pas contente du coaching, ouais. Et ça m'a fait bosser non-stop sur justement qu'est-ce qui se passe. C'est la deuxième fois que ça m'arrive où je suis fascinée par quelqu'un et où je me rends compte que je suis fascinée par leur intelligence intellectuelle et pas l'intelligence du cœur. Et donc, j'oublie cette connexion du cœur. Et ça me déconnecte moi, ça me déconnecte avec l'autre et je rentre dans une joute intellect où j'ai aucune chance de gagner de toute façon. Et du coup, ça me remet dans ma déconnexion de pianiste. Il fallait que je fasse tout à la perfection. Pour moi, ça a été un moment difficile.
Donc, la confluence est un piège.
Ouais, c'est un piège.
Et t'en as parlé, j'imagine, dans tes groupes de supervision ?
Ah oui, j'en ai parlé dans mes deux groupes de supervision. Je l'ai mis au travail deux fois et ça m'a pris du temps à accepter que j'étais tombée dans ce piège. J'étais tellement persuadée de cette connexion. Même je me projetais, ce qui est aussi une autre erreur. Je me projetais avec ce client, l'impact qu'on pouvait faire à travers le monde. J'étais plus du tout dans l'instant avec cette femme.
Ouais, t'étais plus très loin d'avoir un objectif pour elle, quoi.
Exactement, ouais.
Et du coup, t'as identifié avec tes superviseurs quels étaient les signes avant-coureurs sur lesquels tu pouvais être attentive pour éviter de retomber, de reglisser ?
Dès que je suis fascinée, je ne suis plus dans la connexion, je ne suis plus dans la relation. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est aussi de m'observer davantage, un peu comme je te disais tout à l'heure, le méta. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un frenziness. Frenzy, c'est quand il faut faire tout, tout de suite, très vite. Je me suis retrouvée dans ce tsunami où il fallait que je fasse les choses très, très vite, tout le temps. Je bossais très fort. Donc, j'étais un peu prise dans le système, d'ailleurs, de cette dirigeante. Hein. Et je me suis laissée happer dans cette problématique.
Cet échec, c'est aussi un reflet systémique de ce qui était finalement sa problématique du moment. Hein.
Tout à fait, oui. Tu vois, si la connexion avait été vraiment authentique, j'aurais pu lui offrir ce que je voyais du système et elle aurait pu l'entendre. Mais comme j'étais pas connectée à ce moment-là, elle a pas pu l'entendre, donc ça a créé une déconnexion. Non, c'était pas audible pour elle.
Et du coup, là, l'accompagnement s'est arrêté. Comment ça s'est soldé ?
On a essayé de se reconnecter, etc. Mais à un moment donné, c'était plus possible. Ça, c'est intéressant, tu vois, dans l'engagement de la transformation, je crois qu'elle le voulait, mais elle n'était pas complètement engagée. C'est pour ça que le travail avec le dirigeant en amont est important. Ce que je lui ai dit, vous savez, si on n'a pas assez confiance l'une l'autre, le travail avec l'équipe, ça va être un échec. Qu'on n'y arrivait pas, donc on a décidé d'arrêter.
Il y a un regret ?
Bah, je pense souvent à elle et à sa mission. Bon, j'aurais voulu être peut-être plus juste, plus pertinente pour elle, parce qu'il y a de gros enjeux dans l'entreprise et elle a une belle vision, etc. Mais bon, j'étais pas adéquate à ce moment-là pour elle. On verra hein, ce qui pourra se passer plus tard, on sait jamais. Moi, ça m'a fait beaucoup grandir, ce qui fait que si je la rencontrais à nouveau, ben je serais capable de me connecter complètement à elle.
C'est l'occasion de rappeler que nos clients devraient presque les payer parce que ce sont eux qui nous font grandir. Hein.
Eh oui, eh oui.
Et en tout cas, ils contribuent à un perfectionnement de notre pratique et ça, c'est important. Si on est capable, effectivement, grâce à la supervision, de prendre un peu d'auteur. Alors, un autre numéro ?
19.
Comment tu arrives à identifier, finalement, que des coachs pourraient travailler avec ton approche qui sont compatibles et que finalement tu peux en faire des alliés, des partenaires potentiels de ton activité.
Une des coaches que j'ai développée et qui est devenue extraordinaire, c'est Marjolaine Lemieux, qui est ma coach au Québec. Et Marjolaine, on est allés au lycée ensemble. Et lors des retrouvailles de 25 ans, on s'est retrouvés. Et je disais à tout le monde, si vous venez par Paris, vous êtes les bienvenus. Donc Marjolaine m'a pris au mot. Elle dit, je viens avec mon fils en France, est-ce qu'on peut passer te voir ? J'ai dit, oui, tu peux venir chez nous. Et bon, on s'est reconnectés, quoi. Et à un moment donné, je voulais ouvrir les bureaux au Québec. Et je me suis dit, tiens, Marjolaine, ce serait super, Marjolaine. Je me rappellerai toujours, on était à la gare centrale à Montréal. Et je lui ai dit, Marjolaine, pourquoi tu ne viens pas bosser avec moi ? Elle m'a regardé, elle dit, mais t'es folle. Elle dit, je ne connais rien du monde de l'entreprise. J'ai dit, ça, c'est pas grave, je te montrerai. Aujourd'hui, Marjolaine, elle anime toutes mes formations en ligne sur l'approche du livre, que j'appelle le leader à la puissance co. Je te dirais que pour moi, déjà, pour travailler avec moi, c'est une question de cœur et de connexion. Les compétences, tu vois, elle n'avait jamais fait de coaching, mais il s'est passé autre chose, il y avait quelque chose qui était plus important pour moi.
Donc le prérequis, c'est la connexion à soi et donc aux autres, hein, la connexion au cœur.
Oui, oui. Et puis, mon autre coach au Québec, Lynn, c'est grâce à mon mentor, Dominique, qui m'a dit, cette fille, elle a été chez Proctor, elle est super, je l'ai rencontrée, voilà, j'ai dit oui, viens, elle est venue tout de suite voir un client. Et puis ici, c'est des rencontres. Donc, il y en a qui sont venus, qui ont fait partie d'un collectif de coachs que j'avais et qui étaient là plus pour leur propre intérêt. Et donc, ceux-là, dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Ça, je dois dire que c'était pas facile à digérer. Mais en même temps, bon, c'est leur choix. Hein. Donc, c'est vraiment pour moi des histoires de connexion. Il y a des gens qui m'ont approché là dernièrement, dont une, Je me dis oui, ça ce serait pas mal, c'est quelqu'un qui est très international. Donc je cherche surtout des gens qui ont quand même une expérience assez internationale, parce que mes clients sont surtout internationaux. C'est quelquefois, c'est ça qui peut limiter.
Ok, un dernier petit papier.
20.
Alors, il s'agit d'un joker. Donc c'est l'inversion des rôles. Quelle question aimerais-tu me poser, s'il y en a une?
Eh bien, toi, ce serait quoi ta signature de coach?
Je pense que mon plus grand talent dans le coaching, c'est d'aider à faire émerger du sens par l'interview et faire prendre conscience qu'en réalité, la prise de parole publique, c'est une occasion incroyable d'être authentique et impactant. C'est ce que j'ai appelé le coaching par l'interview. Donc, c'est une approche que j'ai mis au point. Donc, ça va être l'occasion d'en parler. Je ne fais pas souvent ça. C'est pour moi un accompagnement qui permet, alors plutôt aux dirigeants, managers de managers ou leaders d'opinion, de réaliser que quand il ou elle parle avec le cœur, parle de manière authentique, quand il ou elle est connecté à soi, sa prise de parole devient une arme de persuasion massive parce que justement, cette connexion au cœur, elle décuple la puissance de ce que l'on dit et elle permet de trouver des alliés qui entendent, qui comprennent et qui sont finalement appelés par le projet porté par la parole. Voilà. C'est l'approche que j'ai envie de déployer et que je déploie un peu déjà à travers ce podcast.
Très bien, ben merci.
Ben merci, du coup, je te propose d'en tirer encore un.
7.
Qu'est-ce que la vie t'a récemment appris et qui t'a surpris?
Les apparences sont trompeuses. Hein. Mon plus jeune frère s'est enlevé la vie l'année dernière. En apparence, il avait tout. Il avait le job de rêve, la famille de rêve, maison de rêve, enfin tout. Et malgré ça, il s'est enlevé la vie. Donc, une des choses pour moi qui est très importante, c'est justement de comment passer au-delà de l'apparence de ce qui est pour aller plus au cœur encore. Et que vraiment, on ne sait pas ce que les gens vivent. Tout ce truc par rapport à mon frère, je me suis rendu compte à quel point je projetais sur mes enfants des craintes, dont mon plus jeune qui ressemble énormément à mon frère. Et j'ai réalisé que c'est moi qui créais la tension chez lui. Un jeune de 15 ans, ado, etc. Et depuis quelques semaines, j'ai complètement lâché et je suis beaucoup plus dans l'écoute de qui il est que mon jugement. Tu devrais pas jouer aux jeux vidéo, tu devrais pas faire ci, faire ça. J'ai vu à quel point j'étais habitée par cette peur. Hein. Donc le fait d'avoir mis le doigt dessus et d'avoir compris, peut-être que j'étais en train de créer quelque chose que je ne veux pas, mais ça m'a permis de relâcher, d'être beaucoup plus dans l'accueil. Et puis du coup, mon fils... Là, il s'est mis à étudier, il joue moins. Enfin, c'est assez spectaculaire hein, ce qui se passe dans notre relation. Et c'est ce même fils hein, qui m'avait encouragé à écrire le livre.
Je ne peux pas m'empêcher de partager que mon père voilà, s'est suicidé il y a quelques décennies. Et c'est vrai que ça reste une expérience de vie lourde. Voilà, c'est une épreuve.
Oui, c'est une épreuve, c'est sûr.
Et ça rappelle en même temps la préciosité de la vie.
Tout à fait.
En transition, je te propose de choisir entre 32 et 33, qui correspondent à des choix musicaux que tu m'as indiqués en amont.
33.
Alors écoutons à présent un extrait de la chanson que tu as choisi pour faire une transition vers la suite de l'interview. Hey, fais frais, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire frais, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud chaud. Je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bon body. J'y dis hey, fais-tu frais? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Il s'agit de la chanson Coton ouaté du groupe de musique québécois Bleu Jeans Bleu, premier single de leur troisième album Perfecto, sorti en 2019. Pourquoi ce choix, Nathalie?
Déjà, un, parce que je suis québécoise. Et Blue Jeans Bleu, c'est un groupe dont le leader est un chanteur de Victoriaville, de ma ville natale. Donc cette chanson-là, elle commence avec du piano, un peu à la jazz, à l'impro et tout. Et après, il y a du beat et c'est de la musique très entraînante. Mais les paroles sont un peu ridicules. Alors c'est toujours un peu le quotidien du Québécois mis en riant de soi. Je trouve ce groupe tellement rafraîchissant parce que quand il parle du coton ouaté, ça parle vraiment de la météo au Québec. Est-ce qu'on doit être habillé de telle ou telle manière et comment les gens font, ils se regardent. L'autre raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que justement, à chaque fois que j'entends Blue Jeans Bleu, moi, c'est mon frère qui me l'a présenté. Comme il est encore très présent pour moi, parce que ça fait seulement un an qu'il est décédé, bah, à chaque fois que j'écoute une musique de Blue Jeans Bleu, bah, je pense à mon frère. Et puis finalement, le premier spectacle que j'ai vu après la pandémie, quand je suis retournée au Québec pour voir ma maman chérie, c'était Blue Jeans Bleu à Victoriaville. Donc, on était enfin sortis de la pandémie et le groupe Blue Jeans Bleu était à Victoriaville et ma maman était avec moi. Et alors là, on s'est éclaté. Ma maman, qui a bientôt 80 ans, aller voir un concert comme ça, c'était trop drôle, quoi. Donc, et c'est ça que je trouve le plus cool, peut-être, des Québécois. C'est de ce côté-là, assez simple, mais on n'a pas peur de rire de soi.
Alors, c'est vrai que ce groupe, et en tout cas cette chanson, se prend pas au sérieux et un regard un peu décalé sur le quotidien. Est-ce que ça fait partie des éléments un peu d'identité d'un Québécois, d'une Québécoise ?
Je dirais que oui, c'est assez dans la simplicité, dans le côté, voilà, on y va, on est ensemble, on s'amuse.
Et ça n'a pas été trop compliqué de s'installer en France ? Qu'on est à Meudon, c'est pas très loin de Paris, que c'est pas tout à fait la même ambiance quand même ?
Oui, l'arrivée en France a été un peu compliquée. Je suis arrivée en 2008 avec la crise de Lehman Brothers en même temps. Mon mari avait un boulot, donc c'était une expérience. C'est mon mari qui travaille et moi, je ne travaille pas. J'ai essayé de trouver du boulot. Finalement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai ouvert mon cabinet. Et ça faisait à peu près, je ne sais pas, 6 mois que j'étais en France. J'étais avec un des amis de mon mari en voiture. Et je lui disais, mais je ne comprends pas les Français, les entreprises. Et là, il m'arrête. Il me dit, mais Nathalie, si tu veux faire du business avec les Français, il faudrait peut-être que tu aimes les Français. Et là, je lui dis, mais attends, mais je les aime les Français, j'en ai même épousé. Il me fait, non, t'arrêtes pas de comparer. Et là, je me suis rappelé quand mon mari avait déménagé au Canada, où il arrêtait pas de comparer la France avec le Canada. Et ça me rendait dingue, parce que je lui disais, tu laisses pas ta chance au Canada. Et j'ai compris que, je pense que quand on arrive dans un nouveau pays, automatiquement, on va comparer pour trouver ses bases. Mais c'est vrai que dans le langage, ça donnait la perception que j'appréciais pas la France. Alors, à partir de ce moment-là, je me rappellerai très bien, j'ai complètement changé mon regard et peu de temps après, j'ai eu mon premier client. Donc voilà, ça a été un peu compliqué au début. Et puis, premier client, L'Oréal, qui n'a rien à voir avec les entreprises américaines et canadiennes, très, très différentes dans leur manière de travailler, leur manière de voir la performance. Et j'étais pleine de jugements. Je dis, mais comment ils fonctionnent? C'est pas possible, je comprenais pas. Et donc, tout de suite, j'ai entendu mon petit jugement. Attends, c'est quand même la boîte numéro 1 mondiale. Essaie de voir qu'est-ce qui fait cette magie. Et puis depuis, je suis super heureuse d'être ici. Hein. Les gens me disent, mais tu préfères pas être au Québec? Bah, j'ai dit, mais moi, j'ai le best of both worlds. J'ai ouvert des bureaux au Québec en 2015. Donc, j'ai des bureaux ici, en France. J'ai des bureaux au Québec et j'ai aussi une antenne en Asie. Donc, comme ça, je peux répondre aux besoins des clients à travers le monde. Et puis, comme j'ai ouvert des bureaux au Québec, ben, j'y vais souvent. Je trouve que j'ai ma place ici. J'amène, je crois, ce côté un peu nord-américain, mais en même temps qui comprend, qui aime la France. Je peux me permettre. Voilà.
Alors, nous arrivons à présent à l'interview rétrospective de ta carrière. Quel est l'accompagnement dont tu es la plus fière ?
Je dirais que celui que j'ai fait avec cette dirigeante dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été une expérience incroyable. Un point de vue humain, déjà avec elle, avec les 50 tops de la boîte, plus les autres, ma relation avec ce collègue Mario Jacques, qui a été une vraie expérience de connexion et humaine.
Pour bien préciser, c'est la dirigeante qui, à un moment donné, après l'été, t'a dit « ça y est, j'ai décidé de rester dans l'entreprise ».
Exactement. Ça a été une de mes expériences les plus satisfaisantes.
Alors, quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client ou une cliente ?
Ça m'est arrivé une fois où je coachais un des membres d'une équipe dirigeante où lui, il n'était pas du tout à l'aise dans son entreprise. Il fallait qu'il change. Donc, il a réussi à déjà être clair sur qu'est-ce qu'il voulait vraiment, à se connecter avec son boss pour qu'il y ait le minimum d'impact. D'ailleurs, ça a été une belle transition. Il a quitté, tout le monde était content qu'il quitte. Mais pour lui et pour l'entreprise, donc ça a été une expérience assez exceptionnelle et pour lui et pour moi et pour le boss et pour l'équipe, l'entreprise, etc. Donc.
C'était plus déroutant, j'imagine, mais pas forcément surprenant, puisque ça peut arriver. Justement, l'accompagnement, c'est aussi là pour faire émerger la demande sous-jacente qui n'est pas toujours explicitée au début. Et là, en l'occurrence, c'était un changement dans sa vie professionnelle.
C'était déroutant pour moi qui était jeune coach, hein, qui commençait, c'était une nouvelle mission internationale.
Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi ?
Qu'ils disent de moi que je suis vraiment une coach qui incarne ce qu'elle dit et que je leur ai peut-être libéré pour qu'ils osent être qui ils sont vraiment et que ça leur a permis de réaliser ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux, quoi.
Quelle serait ta première décision si tu devenais présidente d'une organisation représentative de coach ? Alors par exemple, ICF France ou la Société française de coaching ou MCC France ?
Il y a quelque chose, ouais, peut-être. Comment vraiment mettre les coachs plus juniors avec les coachs seniors, créer quelque chose où il devrait y avoir un vrai mentoring peut-être à l'intérieur pour aider les juniors, parce que c'est compliqué hein, quand t'es pas vraiment établi, là, c'est pas évident. Moi, je pense qu'il y aurait vraiment du reverse mentoring à faire, à vrai dire, peut-être. Hein, c'est les juniors qui coachent les seniors. Ça, ce serait pas mal. Un peu comme ils veulent faire en entreprise, hein, où il y a du reverse mentoring, les plus jeunes. Je crois que ça pourrait permettre d'être encore plus agile et plus ouvert. Ouais, peut-être que je mettrais ça en place.
Que souhaiterais-tu que les auditeurs retiennent de notre entretien ?
Qu'ils comprennent que chacun d'entre eux peut être un leader et qu'ils ont des idées, ils ont des choses à offrir, que vraiment tout est possible quand on est connecté à soi. Donc déjà, je les inviterais à vraiment faire ce méta-observateur et d'oser sortir de ses propres jugements sur soi pour pouvoir oser être qui ils sont vraiment. Donc se connecter à soi et de trouver tous les moyens pour y arriver. Oui, c'est possible de créer un nouveau monde. Et qu'il ne suffit que d'oser dire et de se connecter avec d'autres pour ensuite en faire une histoire qui ira vers là où on veut qu'elle aille. Mais c'est vrai que ça commence par dire. Hein.
Moi, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de la comparaison entre le coaching au Canada et en France.
Je dirais que le coaching au Canada est assez influencé des États-Unis. Donc, c'est sûr que c'est plus un coaching de performance, de résultats, beaucoup plus pratico-pratique dans l'action. Donc, déjà, les objectifs de coaching, quand on demande à quelqu'un « c'est quoi tes objectifs de coaching ici ?», c'est souvent « je veux reprendre confiance en moi » ou enfin des objectifs comme ça. Au Canada, ce n'est pas acceptable ce genre de réponse. C'est-à-dire que ben oui, mais si tu avais confiance en toi, ça te donnerait quoi comme résultat ? Dans ton business, dans ta famille, enfin, c'est très très concret, oui, beaucoup plus concret, je pense, qu'ici. Mais il faut faire attention avec le Canada. T'as le Québec et t'as le reste du Canada. C'est pas la même chose non plus. Même si mes récentes visites au Québec m'ont un peu attristée dans le sens où j'ai l'impression que les Québécois deviennent beaucoup plus américains. C'est des Américains qui parlent français. C'est un peu comme ça que je le ressens souvent. Mais c'est vrai que le côté business, par exemple, tu rencontres un dirigeant au Québec ou même en Ontario, tu vas pas passer beaucoup de temps à connecter ou à échanger. Et le Québécois, souvent, oui, vous êtes là pourquoi ? Tout de suite. Le temps et de l'argent, comme ils disent. Hein. Donc ça, c'est très présent là-bas. Alors que si, c'est moins.
Et alors, qu'est-ce qui t'a surpris par rapport au coaching en France ?
Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu trop torturé. Même dans les supervisions de coach, des fois, je comprends pas ce qu'ils disent. Ils parlent de différentes postures ou différentes choses et ça ne me parle pas. J'ai souvent le sentiment de ne pas toujours être dans la conversation. Bah, moi, ça me paraît peut-être plus intello alors que ça ne l'est peut-être pas. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu trop compliqué.
Ça t'a pas donné envie d'avoir une supervision avec un superviseur canadien ou anglo-saxon en visio ? Ça serait possible aujourd'hui ?
J'ai eu une supervision avec une Américaine. Ça a été ma première d'ailleurs quand je suis arrivée en France. Et maintenant, je dois dire que ça fait trop longtemps que je suis en France pour revenir vers le côté américain. Donc, le côté nord-américain qui était très dans l'efficience, justement, ben alors là, ça m'énerve maintenant. C'est-à-dire que j'ai plus besoin, justement, d'aller plus en profondeur. Moi, je suis tombée en amour avec la France, les Français, les coachs français.
Alors, à présent, je te propose de parler d'un roman graphique que je t'ai suggéré de lire en préparation de cet entretien. Il s'agit en l'occurrence de La dernière reine de Jean-Marc Rochette, sorti chez Casterman en début d'année. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce livre, ce roman graphique ?
Alors moi, j'ai adoré, vraiment.
Comment tu le résumerais, Nathalie ?
C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Édouard Roux, dans le Vercors. Jeune, il a vu un ours se faire malmener. Il a essayé de défendre cet ours. Il a été traité de rebelle, de délinquant. Et même sa mère lui disait, donc c'est intéressant aussi d'apprendre l'impact des parents, qu'il faut faire attention aux humains, c'est les humains les méchants, et il faut être connecté à la nature, etc. Donc, il est parti en 14-18. Il était le seul qui s'en est ressorti, finalement, avec une gueule cassée. Il rencontre cette femme sculptrice Jeanne Sauvage, qui lui reconstruit, grâce à son art, un nouveau visage, un masque. Dans ce livre, en tout cas, un des grands trucs, c'est comment l'art peut permettre de rendre ce qui est laid en très très beau, quoi. Et puis, bon, ils vivent une histoire d'amour où lui-même l'introduit au Vercors, à la nature, etc. Et elle, elle dit, moi, je fais des visages pour gagner ma vie, mais moi, ce que j'aime, c'est faire des animaux. Donc, elle décide de faire un ours. Et donc là, on rentre aussi dans les années 20. Elle investit tout son argent pour faire cet ours qui est vendu, mais par quelqu'un de malhonnête, enfin bref. Mais c'est pas grave, les deux s'en vont vivre dans le Vercors, tranquille. Elle crée avec la nature, des sculptures avec la nature. C'est juste magnifique, d'ailleurs, les dessins sont magnifiques et tout. Et elle tombe malade.
T'as pas trop dévoilé la fin?
Ouais, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment comment cet amour pur qui dépasse et qui transcende pour moi la bêtise humaine. Dans ce livre, c'est du début à la fin, on voit à quel point l'être humain n'est pas nécessairement respectueux de la nature et se laisse prendre par ses jugements.
Il semblerait que ça t'ait plu.
Ah oui, déjà, le Vercors m'a fait penser un peu à ma région natale. On est dans la plaine du Saint-Laurent, qui est juste au pied des Appalaches. C'est la plus vieille chaîne de montagnes en Amérique du Nord. Et puis le Vercors, c'est une des régions que j'ai découvert lors de mes différents voyages en France.
Je crois que tu me partageais que ce livre, ce roman graphique, t'a aussi reconnecté à ton père.
Bah, mon père était le président de l'association Québec Chasse et Pêche pendant des années. Et mon père adorait pêcher. Donc il pêchait, mais il ne mangeait pas le poisson. Et il détestait la chasse parce que justement, il avait ce respect des animaux. Et lors d'un voyage de pêche, il y a un chasseur qui a eu peur d'une ours qui était avec ses deux bébés et qui a tiré sur l'ours. Et l'ours, elle avait été mal tirée, ce qui fait qu'elle était en train de tout ravager. Et donc, mon père a été obligé d'abattre l'ours. Et donc, on avait cette ours un peu en trophée, là, mais à la maison. Et mon père me racontait toujours, c'est important de bien respecter la nature. Ça m'a bien reconnecté avec et mon père et la nature et tout ça, oui.
Alors moi j'avais une question un peu plus business, j'ai envie de dire. Lorsque tu accompagnes un client dans cette dimension pour l'accompagner vers un leadership plus humain, plus respectueux, etc. Est-ce que la transition énergétique, le respect de la nature fait partie peut-être des thématiques sur lesquelles tu es un peu plus sensible ou tu veilles à ce qu'est cette prise de conscience du côté de tes clients?
Bah, complètement. Moi, j'ai une vision qui s'est très bien ancrée en moi depuis 2015, qui est de créer une plateforme des leaders de la future économie mondiale durable et équitable, parce que je crois que l'économie telle qu'elle est dirigée, c'est pas tenable du point de vue écologique, mais l'écologie, pour moi, c'est pas juste l'écologie extérieure, hein, c'est aussi l'écologie humaine avec soi-même. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux. Mais moi, je m'affiche déjà, dès le début, quand je rencontre un dirigeant, avec cette vision. Donc, je suis très claire sur qui je suis, pourquoi je suis là. Je ne cache pas, je suis un être humain aussi avec des envies. Maintenant, j'attire, je crois, ce genre de client.
Est-ce qu'en sous-jacent, finalement, tu n'es pas en train de dire que c'est au coach de travailler ces questions, d'être au clair et d'être aligné par rapport à cette thématique du respect de l'environnement, de la transition énergétique, pour attirer à eux des clients qui sont en congruence avec eux?
Écoute, peut-être. J'ai une coach avec laquelle je suis en supervision qui, elle, s'est vraiment posé la question les 10-15 prochaines années de sa vie, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a envie. Donc, elle a vraiment décidé de prendre une formation pour mieux comprendre tout ce qui était les enjeux climatiques, etc. Ce qui est important surtout, c'est d'être vraiment authentique avec ses intentions. Mais on n'est pas là pour imposer les sujets. En réponse à la COVID-19, j'ai lancé le Co-Lead 20, puisque toute mon approche s'appelle Co. Et puisque j'ai cette vision des leaders pour la nouvelle économie mondiale durable et équitable, j'ai dit, tiens, je vais réunir des dirigeants à travers le monde, on va échanger. Donc, tous les deux mois à peu près, j'ai cet événement. C'est un événement en ligne, gratuit.
Alors je crois de mémoire qu'il n'y a pas de replay.
Non.
C'est de l'expérientiel pur. Les gens sont présents pendant la durée de l'événement, glanent des informations, des échanges, des partages, mais il n'y a pas de replay.
C'est ça. Il n'y a pas de replay parce qu'on veut vraiment que les gens viennent et qu'ils s'engagent dans le truc. Ça fait partie de notre approche. Hein. Le change management, c'est plus juste les processus ou changer les trucs. Il faut vraiment s'ancrer. J'invite mes clients, mes anciens clients à venir, ça les nourrit, ça dure 1h30 et c'est une très belle expérience de connexion et d'engagement parce que je termine toujours avec « Quel sera votre engagement en sortant de cette rencontre ?»« It cannot be just for the fun of it » Mais la plupart des gens reviennent, hein, de fois en fois.
Alors à présent, écoutons un extrait de la chanson que tu as choisi pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après.
Toi, plus moi, plus ceux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus eux, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez.
Il s'agit de la chanson « Toi plus moi » de Grégoire. Alors, Toi plus moi, c'est le premier single du premier album du chanteur français Grégoire. Cette chanson est sortie en juin 2008 et elle a été écrite et composée par le chanteur lui-même. Pourquoi ce choix, Nathalie ?
Déjà, c'est une chanson super simple qui dit exactement ce que je dis. C'est-à-dire, quand on est ensemble, il n'y a rien qui est impossible. Et il ne suffit que d'entrer dans la danse, donc il faut quand même se mettre en action. C'est ça, c'est ce côté frais, simple, direct, qui, pour moi, est la raison pour laquelle on est sur Terre, hein, c'est de se connecter et de vivre ensemble une expérience humaine incroyable.
Cette chanson, il l'a écrite en étant sur une trottinette, en allant voir son frère qui était en train de peindre son appartement pour l'aider. Et il a eu ça en tête. Il a eu d'abord la mélodie et puis après les paroles. Il y a eu quelque chose d'assez spontané qui a germé. Je me suis demandé si l'approche, est-ce que ça a émergé rapidement ou au contraire, ça a mis plusieurs années à se peaufiner ?
L'approche telle que je la vis depuis les débuts est peut-être intuitivement présente. Mais la formalisation était un peu plus compliquée. Mais quand j'ai finalisé mon dessin, le leader, l'équipe, l'entreprise, le monde avec mes quatre piliers, je me suis dit que ça représente toute mon expérience. Ça s'est clarifié en écrivant mon livre.
Alors en juillet 2020, Grégoire a sorti une nouvelle version de Toi plus moi en différentes langues. Le but, en fait, c'était d'apporter une note d'espoir en plein Covid, hein, puisque c'était à la sortie du premier confinement en France. Et il y a eu plus de 25 pays qui ont dansé sur cette nouvelle version. Est-ce que c'est ton souhait, au fond, que cette approche que tu as mis au point et qui est un peu la synthèse de tes années d'accompagnement de leader puisse te diffuser, se disséminer un petit peu partout ?
Définitivement, oui. J'ai une mission là, ça fait déjà un an que je travaille avec cette équipe. Et là, on va voir d'autres gens de leurs équipes. Il va y avoir des gens de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, du Mexique, du Brésil. S'ils ont appris vraiment la puissance de la connexion, à se connecter eux-mêmes, à oser dire qui ils sont, ce qu'ils veulent vraiment, ils retournent chez eux et ça a un impact dans leur famille, ça a un impact dans leur communauté. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le coaching un peu plus d'organisation ou d'équipe où on a un impact plus large que si j'étais psy ou je rencontre un individu à la fois.
Alors, après 2h35 d'entretien, qu'est-ce que tu ressens, Nathalie, là ?
Je suis pleine de gratitude de cette rencontre avec toi. Vraiment, je suis particulièrement touchée et aussi, ça m'a fait voyager un peu. J'avais oublié certaines choses.
Alors, avant de clore notre entretien, Nathalie, je rappelle le titre de ton livre, Un leadership humain et performant, oui, c'est possible, sorti chez Mardaga en 2021. Nous avons également parlé du roman graphique intitulé La dernière reine de Jean-Marc Rochette, sorti chez Casterman en octobre 2022. Merci, Nathalie, d'avoir accepté mon invitation à retracer ton parcours de coach.
Merci beaucoup, David.
Et entrez dans la danse.
Parcours de coach.
Merci de votre écoute. Découvrez nos deux séries de podcasts intitulées Un coach à la une et Parcours de coach sur le site www.lemediadescoach.com. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute et sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si l'épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela contribue à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents, à savoir LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.